Type de la soirée. Donc les questions viendront du public. On attend vos questions. Au départ, les intervenants vont rapidement se présenter, présenter leur spécialité. Et donc pour ça, il y a deux micros qui circulent. Et donc voilà, on vous demande de bien attendre d'avoir un micro pour parler parce qu'on enregistre la soirée pour pouvoir ensuite la diffuser sur Internet. Voilà, je laisse la parole aux intervenants. Laurent, tu attaques ?
Bonsoir, moi je suis Laurent Baclair, professeur de philosophie au lycée Vaugelas. Et puis voilà, quand on m'a proposé de venir participer à ce débat, je me suis dit que la distinction homme-femme, c'était un lieu où il y avait quand même pas mal de préjugés. Et comme la philosophie en général, c'est la lutte contre les préjugés, peut-être qu'il y avait des préjugés dont on pouvait discuter. Et donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle je suis ici ce soir.
Bonsoir, Philippe Gontier, je suis psychiatre et j'apporterai quelque chose de différent peut-être. Le cerveau, ça sera l'affaire de mes collègues là-bas, et moi de ce que je pense et de ce que j'entends à propos de discours des hommes et des femmes, quelle que soit l'anatomie de leur cerveau.
Ah, il y a l'autre. Je passe à droite. Bonjour, donc je suis Guillaume Vallet, je suis économiste et sociologue à l'Université de Grenoble. Donc en économie, je travaille sur la Suisse et en sociologie, je travaille plutôt sur le genre, le sport et la sociologie du corps. Donc des thématiques un peu opposées, mais qui à chaque fois rassemblent un petit peu ceux qui ne font pas comme les autres, j'allais dire. Et j'ai particulièrement travaillé sur les pratiquants de bodybuilding. Donc ce sera l'occasion peut-être de revenir sur la masculinité, comment on appelle, hégémonique qui est affichée. Voilà.
Bonsoir. Donc moi je suis médecin, comme mon collègue psychiatre, neurologue, donc plutôt spécialiste du cerveau. Je travaille à Grenoble, au CHU de Grenoble, et je suis aussi membre d'une unité INSERM, donc en neurosciences. Donc les questions qui pourront plus me concerner seront vraiment axées sur le cerveau, différence de cerveau, homme-femme, est-ce qu'il y en a, quelles sont-elles, qu'est-ce qu'elles signifient, et puis ce qu'on fait du cerveau, donc les compétences.
Merci. J'espère que vous avez remarqué la parité sur. C'était important.
Je suis une femme. Hein.
En fait, on a deux femmes et demie se cachent parmi nous. Il faut les trouver. Bon, sur ce, à vous de prendre la parole. On attend avec impatience vos questions.
Bonsoir. Je ne sais pas, on entend, oui, c'est bon. Donc le cerveau donc, est en fait le siège de l'intelligence, des émotions et puis de la mémoire. Et la science bon, a cherché depuis très longtemps à analyser sa structure ainsi que les éléments qui la composent et leur rôle et comment ils évoluent. Et alors, ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'en fait notre comportement, il est quand même lié à notre culture, notre éducation, au tabou de la société, et donc le cerveau a une certaine plasticité, il est donc capable d'évoluer dans le temps, et donc comment peut-on arriver à détecter des différences entre le cerveau masculin et le cerveau féminin?
Bien, c'est pour le neurologue, ça, je crois.
Alors, donc... En fait, effectivement, ça ne date pas d'hier, mais depuis plusieurs siècles, les scientifiques se sont penchés sur la question d'une différence entre hommes et femmes au niveau du cerveau. Alors, les moyens les plus anciens, c'était des moyens anatomiques. Hein, et ce qu'on a fait pendant longtemps, c'était de peser les cerveaux pour savoir s'ils étaient différents, avec un raccourci dont on sait aujourd'hui qu'il est faux, hein, qu'un cerveau, plus il est gros, plus il est intelligent. Alors... déjà, ça, c'est une réponse de base, c'est-à-dire est-ce que, anatomiquement, sur le plan du volume, il y a une différence entre le cerveau des hommes et celui des femmes? Et effectivement, statistiquement, hein, les cerveaux sont en moyenne plus gros chez l'homme que chez la femme. Alors, pourquoi est-ce que le cerveau est plus gros chez l'homme que chez la femme? Essentiellement parce que le corps de l'homme est plus développé que celui de la femme et qu'il y a une relation assez étroite entre le volume global corporelle et la taille du cerveau, c'est-à-dire qu'un éléphant a un cerveau qui est plus gros que celui d'une souris, etc. Donc ça, c'est vraiment un déterminant majeur de la taille du cerveau. Alors, ça, c'est déjà le principe. Ensuite, derrière, Au XIXe siècle, par exemple, il y avait un raccourci qui était trop rapide entre l'idée que plus on a un gros cerveau, plus on est intelligent. On sait que ce n'est pas vrai, hein, qu'il n'y a pas de relation entre cerveau et intelligence. Deuxième type d'outils qu'on a utilisé, c'est des mesures. Mesures d'intelligence, quotient d'intelligence, etc. Donc faire passer des tests à des grandes populations. Et assez rapidement, et là aujourd'hui, il y a un consensus scientifique en main général, il n'y a pas de différence en intelligence, hein, lorsqu'on mesure l'intelligence globale, entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que donc, cette différence de taille qu'on observe, elle n'est pas associée, contrairement à ce que pensaient les anciens scientifiques, à une différence d'intelligence globalement. On peut aller un peu plus loin dans l'analyse de ces tests, hein, qu'on fait passer aux gens, et là, on voit des différences. C'est-à-dire que statistiquement, toujours statistiquement, hein, et ça, il faut bien comprendre que les statistiques, c'est prendre un grand échantillon de personnes, les tester, et puis faire des moyennes. Et généralement, le plus souvent, vous savez, quand on fait des moyennes, on a ce qu'on appelle des courbes de Gauss, hein, c'est-à-dire il y a des gens qui sont très loin de la moyenne, et puis plus on se rapproche de la moyenne, plus il y a de personnes, hein, pour faire vite. Donc, ce qui veut dire que à l'intérieur d'un même genre, d'un même sexe, on peut avoir des différences qui sont très importantes. On peut avoir des gens qui vont passer des tests très brillamment et des gens du même sexe qui vont le passer très modestement, quel que soit le sexe. Donc les différences inter-individuelles entre deux individus peuvent être beaucoup plus grandes, et elles le sont même souvent, que les différences moyennes entre deux populations. Hein. Ça, c'est rien de particulier au sujet de ce soir, hein, c'est assez général. Hein. Lorsqu'on parle de comparaison entre populations, on est toujours un petit peu en train de confronter des données statistiques, c'est-à-dire qu'on mesure ce qu'on appelle des tailles d'effet, qui font que les moyennes diffèrent significativement individuellement. Deux individus pris au hasard peuvent être plus différents que la différence des moyennes. D'accord ? J'espère que je suis clair là-dessus. Alors, ces tests-là, qu'est-ce qu'ils vont montrer ? Ils vont montrer globalement, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, que dans des tests, par exemple, qui font appel à la rotation mentale, c'est-à-dire, en gros, on montre deux images en 3D, hein, qui sont présentées différemment, et on demande si c'est les mêmes ou pas. Donc, il faut rapidement tourner un peu mentalement une image dans sa tête pour voir si elle correspond à l'autre. Là, de manière statistique, encore une fois, hein, les hommes sont significativement plus habiles, plus rapides, plus... voilà. Autre type de test qui est utilisé, c'est la fluence verbale. Fluence verbale, c'est allez-y, là, en une minute, dites-moi le plus de mots qui vous vient à l'esprit qui commence par la lettre S. Donc salade, saucisson, etc. Sexe pour le sujet de ce soir. Et là, les femmes sont significativement meilleures que les hommes. Alors, attention, parce que tout de suite, on va arriver un petit peu sur ce qui était derrière la question de monsieur, c'est-à-dire, et finalement là-dedans, puisqu'on dit, tiens, dans certaines tâches, les hommes sont meilleurs, pour d'autres, les femmes sont meilleures. Quel est le rôle des propriétés, on va dire innées, enfin des propriétés cérébrales de départ, et des apprentissages, de la culture, de ce qu'on apprend. Après tout, le petit garçon, on va tout de suite lui coller une voiture, on va lui donner un petit atelier de bricoleur, et il va, avec ses Lego, avec ses machins, faire de la rotation mentale, tourner ses briques, etc. La petite fille, elle va lire des histoires, elle sera plus dans le langage, etc. Donc voilà, c'est un peu le débat de ce soir, c'est finalement quelle est la part de ce qui est cérébral et la part de ce qui est culturel, éducatif, etc. Alors, ces différences dont je parlais, lorsqu'on les teste chez les enfants, pas uniquement chez les adultes, elles sont déjà présentes. Donc, elles sont présentes très tôt quand même. Hein, ça n'empêche qu'il peut y avoir un rôle dans l'éducation, etc. Dernier argument, donc vous m'avez suivi, hein, partie un peu grossière anatomique. Je pourrais revenir, hein, si vous voulez, dans le détail, des différences anatomiques entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. On verra s'il y a des questions là-dessus. Les tests. Et puis maintenant, tout ce qui est l'imagerie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on peut voir, grâce aux outils d'imagerie, le cerveau, non pas comme il est anatomiquement, mais comment il fonctionne. Et là, on peut aller chercher, ça peut être l'occasion aussi de discussion, des données qui montrent comment une femme, comment un homme, en moyenne, hein, je caricature nécessairement, hein, va utiliser son cerveau et quelles sont les différences qu'il y a dans l'utilisation d'un cerveau masculin, féminin.
Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est bon ? Alors, on part sur une autre question. Madame.
On parle souvent du cerveau droit et du cerveau gauche. Est-ce qu'il y a une différence significative pour les hommes et pour les femmes ?
Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Hein, Alors, vous savez qu'on a ce qu'on appelle une asymétrie cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau a deux hémisphères, hein, une partie droite qui est surtout en charge du côté gauche, partie gauche, en charge du côté droit, et que chaque hémisphère, très rapidement, très très tôt, hein, on se rend compte maintenant avec les études, de plus en plus tôt dans la vie, va se spécialiser. Il y a une spécialisation hémisphérique. Par exemple, l'hémisphère gauche va être plus en charge de toutes les activités qui ont trait au langage chez le droitier, hein, et l'hémisphère droit, plutôt tout ce qui a trait au traitement spatial, visio-spatial. Donc là-dessus, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir un peu l'idée que tout ce qui va être spatial, c'est-à-dire représentation dans l'espace, etc., va être plus facilement utilisé, avec des guillemets, par le sujet masculin, et tout ce qui est contrairement à trait au langage, va être plus utilisé par le cerveau féminin. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça, et aujourd'hui, on n'a pas de données scientifiques très étalées. On pourra reparler un petit peu de ce que je disais sur comment est-ce qu'on se sert de son cerveau, mais on ne peut pas dire, sur les données actuelles, que la femme utilise plus son cerveau gauche que le droit, et inversement, que l'homme utilise plus son cerveau droit que le gauche. On n'est pas du tout à ce niveau-là. C'est plus sur l'articulation entre l'organisation justement des différentes régions où on peut voir des différences.
Merci. Madame ? Ah, mademoiselle, je ne sais pas.
Vous parliez justement en fait, de l'impact de l'éducation sur justement les différents cerveaux. Est-ce qu'il y a une étude justement qui a poussé ça un peu plus loin en disant bon bah voilà si on faisait faire des choses on va dire de filles à des garçons et des choses de garçons à des filles, est-ce que du coup le résultat quel en serait le résultat, est-ce que j'ai eu des études là-dessus sur le long terme?
Merci, pensez aux sociologues, c'est sympa. Ouais. Oui. Et autres.
Oui, il y a eu quelques études qui ont été faites là-dessus. Donc, c'est vrai que ça dépend aussi de la présence ou pas des parents chez les jeunes enfants. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils sont amenés à mélanger, entre guillemets, les jouets stéréotypés, ils s'approprient les jouets et ils semblent prendre du plaisir par rapport à ça. Par contre, leur comportement change selon que le père ou la mère, et surtout le père en particulier pour les garçons, est présent. Où là, il va avoir tendance à rejeter certains jouets en particulier et en privilégier d'autres. Donc, c'est cette étude que j'ai en tête. C'est vrai qu'il y a vraiment cette influence, enfin, forcément pour les sociologues on va beaucoup insister là-dessus, sur cette influence du contexte sociétal, sur la culture, sur les attentes aussi par rapport à un sexe. Et nous en sociologie par rapport à ça, souvent c'est pas tant de nier ces différences biologiques qui posent problème entre guillemets. Ça va être de savoir, de s'interroger politiquement à partir de quand ces différences vont produire des inégalités. C'est à partir de quand on va juger que telle différence biologique va amener à une inégalité pour l'accès à certaines ressources. Et comment surtout on va les justifier politiquement. Pourquoi, à partir de ressources biologiques qui sont peut-être premières, effectivement, comment on en est venu à séparer aussi fortement les espaces, à en attendre aussi fortement d'un sexe et pas par rapport à un autre, à justifier l'appropriation de certaines ressources par les hommes et pas par rapport à, et pas pour les femmes. Donc voilà, c'est surtout là-dessus, effectivement, que nous, on va pouvoir apporter peut-être un autre regard et une dimension d'analyse, en fait. Voilà.
Sur cette question-là, j'ai l'impression...
C'est bon ? Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des fluctuations dans la population et qu'il y a eu des époques où on était très sur « il n'y a que de l'acquis ». Dernièrement, moi je vis les choses comme ça, il y a un retour du naturel et du poids du naturel. C'est-à-dire que peut-être que dans les années 70, on était moins dans qu'est-ce qui est propre aux petites filles, qu'est-ce qui est propre aux petits garçons. Et là, maintenant, on entend parler. Alors, c'est un problème de démarche scientifique. C'est souvent des cas particuliers qu'on met beaucoup en avant. Donc, on va dire, il y a telle famille, elle a mené une expérience avec ses enfants. Donc, par exemple, elle va leur donner des prénoms qui sont ni masculins ni féminins, un peu entre les deux. Où il y a une autre famille qui a mené une expérience, ils ont offert des Barbies à leur petit garçon et un camion à leur petite fille pour voir si ça marchait. Et en fait, très vite, les enfants ont échangé les jouets. Voilà. Et puis, donc effectivement, il y a un retour, moi ça me semble assez fort en ce moment, du poids du naturel. On veut croire qu'il y a de plus en plus de détermination naturelle et que les comportements sociaux et acquis, en fait, ne peuvent pas totalement recouvrir ce naturel et que le naturel se rappelle à nous. Et il y a un cas célèbre, alors malheureusement, je ne me souviens plus du nom, d'un jeune garçon, donc il est né garçon, et puis à la suite d'une opération dans son enfance, donc ses organes génitaux ont été gravement atteints, endommagés. Donc les médecins ont dit aux parents, on va en faire une fille, et vous aurez qu'à l'élever comme une fille. Et c'était très tôt dans sa vie. Donc ils en ont fait une fille, donc. Et on lui a donné un prénom, de Brenda, je crois, il s'appelait Brenda. Et donc, ils l'ont élevée comme une fille. Et en fait, cette fille, donc, elle s'est toujours sentie mal dans sa peau jusqu'à ce que ses parents lui avouent qu'en fait, elle était née garçon et qu'elle était devenue fille. Et donc, elle n'a plus voulu qu'une chose, c'est redevenir garçon. Et donc, malgré l'éducation, l'amour des parents qui l'avaient élevée comme une fille, en fait, le garçon qui était en elle, j'ai envie de dire, était revenu. Donc voilà, ça c'est un cas qu'on met souvent en avant pour dire, bah oui, le poids de la nature est tel que elle va se rappeler à nous. Et puis, donc c'est un peu l'époque.
Juste un truc, je finirai juste en disant qu'il y a quand même aussi de plus en plus de volonté de brouillage aussi de cette binarisation, entre guillemets. On voit se développer aujourd'hui de plus en plus de mouvements trans dans tous les sens du terme pour casser aussi. Alors il y a un message individuel derrière, où c'est vrai que les individus cherchent plus à avoir une identité propre et à se chercher, donc ça peut être une réponse pour certains qui ne se reconnaissent pas dans certains des codes, mais il y a aussi de plus en plus un message politique aussi, c'est-à-dire que il y a une volonté de casser cette représentation aussi binaire que la décision du médecin, qui était peut-être légitime en soi, mais à rappeler en disant c'est soit fille, soit garçon, et ça fait aussi évoluer les choses, où en Australie, aujourd'hui, on a la possibilité d'être sur son passeport, entre guillemets, d'être ni fille ni garçon, il y a une troisième possibilité, pour dire aussi que voilà, il y a aussi des conditions sociétales qui font que dans le besoin de reconnaissance aujourd'hui, qui est celui des individus, où on est dans des sociétés où voilà, les individus sont quand même beaucoup plus renvoyés à eux-mêmes, où il faut se définir une propre identité, ça fait partie aussi de cette dimension-là, je pense, de rappeler ces choses-là.
Pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au cas qui était mis en avant, bah effectivement, il y a des cas où des personnes naissent femmes ou hommes et veulent devenir du coup l'autre sexe. Donc du coup, ça contredit. Enfin, c'est un peu en contradiction avec le cas dont vous parliez.
Alors, ça veut dire quoi, naître homme, naître femme? D'accord. Si un Alors là, c'est le bon débat. Là. C'est quoi une femme, en fait? Est-ce que...
Parce qu'on ne sait pas.
Hein. Oui, ben voilà. Ou c'est quoi un homme? Est-ce que le fait d'avoir des organes génitaux féminins suffisent à être femme? Ou est-ce qu'on peut être femme en ayant des organes génitaux masculins? Voilà. Oui, ça, c'est une bonne question. Ouais. C'est quoi Et donc, effectivement, ce dont parlait Guillaume, c'est les personnes qui vont passer d'un sexe à l'autre, qui vont questionner aussi. C'est parfois un geste politique. C'est une manière de dire, effectivement, ce qu'on appelle homme-femme, ça n'est qu'une construction sociale. Et donc, je peux tout à fait choisir, après tout, et influer sur le donné naturel en changeant la configuration des organes génitaux. La médecine permet ça aujourd'hui. Hein, c'est impressionnant.
Ces gens qui veulent changer de sexe, peut-être souvent disent que c'est leur nature aussi.
Alors à ce propos, je peux prendre la parole pour parler justement à cette occasion de ce qui est transgenre, transsexualisme, transformation anatomique, puisqu'il se trouve que dans notre spécialité, on est appelé à maintenant, puisque les opérations sont possibles, avec partant des modifications endocriniennes, puis de la transformation chirurgicale, à se prononcer. Puisqu'il faut, dans la plupart des équipes chirurgicales et dans le parcours des patients ou patientes, donner en quelque sorte notre avis de psychiatre ou de psychologue, enfin moi c'est en tant que psychiatre. Et justement, ça soulève une question extrêmement intéressante. Pour ma part, il s'agirait de donner un avis indépendamment d'une pathologie chez une personne qui voudrait se faire transformer, mais qui serait dans un contexte d'un délire de la représentation d'elle-même, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Il s'agirait de certifier, en quelque sorte, donner notre aval pour la société et la couverture de tout ce qui va aller en aval dans les transformations. Au fond, comment peut-on affirmer que la demande de la personne dans son changement de sexe correspondrait totalement à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle est, à ce qu'elle veut, et à son mental et à sa personnalité? C'est quand même une question qui nous amène à... Encore une fois, la société demande beaucoup aux psychiatres... dans beaucoup de cas, et là j'avoue que c'est une expérience qui nécessite déjà beaucoup de cas pour comprendre, et c'est pas évident, justement, je rejoins le propos de Laurent, savoir, je me sens fille, je me suis toujours senti fille, je vais me faire transformer en fille, bien que je sois un garçon, dans l'analyse plus fine, on savait depuis tout temps, et c'est pas que de l'éducatif, ce sont les représentations d'identification, on a vu aussi dans des familles, monosexe dans les fratries, il y a toujours quelque chose qu'on entend. Ah ben, mes parents voulaient un garçon, ils ont trois filles, il y en a Je vais schématiser comme d'habitude, vous me connaissez. Il y en a souvent une qui s'y colle, il voulait un garçon, ben pourquoi pas moi, ou inversement. C'est un garçon manqué, on n'a jamais parlé de fille manquée d'ailleurs. Donc il y a ça dans les identifications, les attentes parentales, l'éducatif, l'inné et l'acquis. Mais pour ce qui est de la question de la transformation sexuelle, alors d'ailleurs en France, ça va arriver, il va y avoir, ça cessera sur les numéros de sécurité sociale. Tout le monde doit savoir que 1, c'est masculin, 2, c'est féminin. Et ben, il va y avoir un nouveau chiffre. Ce sera probablement 3, c'est à l'étude. Ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Mais on doit savoir si la personne, dans sa demande, peut être entendue. Est-ce que ça correspond réellement à une possibilité qu'elle assumera indépendamment de choix de circonstances. Et là, on est vraiment confronté à la question. Moi, je suis content qu'elle ait été posée. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Quant à la bisexualité, dont on parle beaucoup dans les ébats sexuels de différents saunas, la bisexualité psychique était quelque chose peut-être très vieux, très dépassé, mais une notion psychanalytique qui avait été posée il y a très longtemps, à savoir, au fond, la psyché, est-ce que c'est typiquement masculin ou féminin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la part en chacun, d'une partie féminine et d'une partie masculine, quelque chose qui amènerait pour son identification, la reconnaissance de soi et le rapport à l'autre, à assumer pour chaque sexe, alors je laisse les guillemets pour qu'est-ce que le sexe, assumer la partie contraire, c'est-à-dire quelqu'un, un homme qui ne peut pas assumer une partie féminine parce que ce n'est pas viril, inversement, une femme qui doit réprimer sa partie. Donc c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas avancer beaucoup le débat, je vous laisse les questions, mais c'est compliqué.
Peut-être il faut préciser qu'il y a une différence entre le sexe et le genre. D'accord. Donc, le cerveau a-t-il un sexe? En fait, peut-être la question, c'est le cerveau a-t-il un genre? Donc, le sexe, c'est ce qu'on porte sur son corps à la naissance. Et puis, le genre, c'est peut-être lié à des comportements sociaux. Voilà. Et il y a deux anecdotes dans l'actualité qui ont beaucoup défrayé la chronique. C'était il y a 2-3 ans. Alors, je ne sais plus dans quel pays, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais les transsexuels ont demandé à avoir des toilettes distinctes de celles des hommes et de celles des femmes. Et revendication légitime, après tout, ils disaient on se sent mal à l'aise dans les toilettes des hommes, on se sent mal à l'aise dans les toilettes des femmes. Et tout le débat, et ce qui a été génial, c'est qu'ils ont dit, et on veut un pictogramme, on veut un petit dessin. Et alors, il y a eu tout un débat pour savoir, ça va être quoi le dessin? Parce qu'après le 2, il y a le 3, mais nous, on a les petits bonhommes en pantalon, on a compris que c'est pour les hommes. Et puis il y a le petit personnage avec la jupe. D'ailleurs, c'est une question que j'adresse aux femmes. Hein, pourquoi est-ce que forcément le pictogramme femme, c'est avec une jupe? Voilà. Et ben, voilà, je vois bien les femmes dans les toilettes pour hommes en disant, bah, moi aussi je mets des pantalons parfois. Voilà. Et donc il y a eu un concours pour quel va être le pictogramme. Et puis l'autre cas qui a bien défrayé la chronique aussi, peut-être vous vous en souvenez, c'était en 2012, pendant les Jeux Olympiques de Londres. Hein. Il y a eu tout un débat parce qu'il y a eu une athlète sud-africaine qui effectivement a un aspect d'homme, quoi, et à tel point qui gagne toutes les courses, qui crasse tout le monde. Je crois que c'est Caster Semenya ou Semenya. Et alors, les autres athlètes ont dit non, mais elle devrait courir dans la catégorie homme. Et là, le comité d'organisation des Jeux Olympiques s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à décider. Leurs critères, en fait, sont très difficiles si elle doit concourir dans la catégorie homme ou femme. Et effectivement, donc, le fait d'avoir des organes génitaux féminins, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut avoir été opéré, et finalement, on court dans la catégorie féminine et on remporte toutes les victoires. Et donc, ils mesurent le taux de testostérone. Et pour cette athlète-là, son taux de testostérone, évidemment, est énorme. Elle en a 3 fois plus, je crois, que les femmes, beaucoup plus que certains hommes. Et ils sont très embêtés. Elle a un faciès... C'est vraiment étrange. C'est vrai. Et du coup, ils n'arrivaient pas à décider si c'était une femme.
On va vous te passer un micro.
Excusez-moi, on m'entend? On m'entend? Voilà, parce que c'est justement là-dessus, sur les hormones féminins masculins, ça peut être une définition qui vaut ce qu'elle vaut de la féminité ou de la masculinité. Donc je voudrais savoir s'il y a des mesures de fait, des observations, des expériences sur le lien entre les hormones et le fonctionnement du cerveau. Hein. Vous avez parlé d'imagerie cérébrale. Donc ça, peut-être qu'on peut observer ça. Il y a le cas de Béatrice Preciado, hein, qui avait, je crois, pris des hormones masculins. Alors, je ne sais pas quelles ont été les réactions qu'elle a observées en elle.
Alors, donc, effectivement, pour reprendre un petit peu les histoires de définition, hein, la définition biologique, hein, ensuite, effectivement, il peut y avoir des définitions qui sont extra-biologiques, hein, mais la définition biologique, elle est d'abord génétique, c'est-à-dire qu'au niveau du patrimoine génétique, les chromosomes ne sont pas les mêmes chez les hommes, chez les femmes, puisque les chromosomes féminins comprennent deux chromosomes X, alors que les chromosomes masculins comprennent les chromosomes X et Y. Donc ça fait une différence génétique qui est traçable, c'est-à-dire c'est très facile de récupérer un petit peu de sang, de faire un karyotype et de savoir si le sujet génétiquement est masculin ou féminin. Ça c'est très simple. Alors derrière, ces chromosomes vont très tôt, hein, dans la différenciation du fœtus, entraîner l'apparition d'organes génitaux masculins ou féminins. Et ensuite, il va y avoir la sécrétion hormonale qui va déterminer d'autres caractères sexuels qu'on appelle secondaires, notamment au moment de la puberté. Alors, dans ces hormones sexuelles, il y a notamment les fameux stéroïdes sexuels qui sont la progestérone, l'œstrogène chez la femme, hein, ou la testostérone chez l'homme, qui ont des propriétés qui la permettent de passer très facilement ce qu'on appelle la barrière hématoencéphalique, c'est-à-dire d'atteindre le cerveau. Et alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais prendre juste l'exemple de la progestérone parce que c'est très intéressant. La progestérone, donc, c'est une hormone sexuelle qui est produite pendant la deuxième partie du cycle de la femme. Donc, première partie du cycle, c'est la phase œstrogénique. La femme, en gros, prépare l'ovulation. Elle va produire un ovule. Deuxième partie du cycle, la progestérone arrive, elle prend le relais. Et le but de la progestérone, c'est de constituer un utérus capable d'accueillir un œuf, un ovule qui a été fécondé, hein, pour éventuellement démarrer une grossesse. Donc, elle va gonfler l'utérus de sang pour le permettre éventuellement à l'œuf fécondé de s'implanter et la grossesse de démarrer. Il n'y a pas de fécondation, les taux de progestérone chutent. Hein, il y a brutalement un signal comme quoi bon, il n'y a pas eu de fécondation, donc il n'y a pas de grossesse qui démarre, la progestérone chute, l'utérus se vide, c'est les menstruations, et on repart sur un nouveau cycle. Cette progestérone, elle a des propriétés cérébrales qui sont très bien connues, notamment sur un récepteur qui intéressera notre ami psychiatre, qui est le récepteur GABAergique. Le récepteur GABAergique, c'est le gros récepteur inhibiteur du cerveau. C'est celui sur lequel l'alcool joue un rôle, les benzodiazépines jouent un rôle sur ce récepteur-là. C'est-à-dire que la phase progestéronique est une phase où éminemment ce récepteur, parce qu'il va changer un peu de conformation, va être plus sensible à l'action de ce fameux neurotransmetteur qu'on appelle le GABA. Et donc, il y aura des conséquences cognitives, comportementales éventuellement, hein, qui sont plutôt dans le sens de quelque chose qui est de l'ordre du tranquillisant. Et c'est aussi parce que tout d'un coup, cet effet disparaît, qu'il peut y avoir au moment des règles un état qui peut être désagréable pour la personne, d'irritabilité, parce qu'il y a un sevrage. Un petit peu comme si cette progestérone avait un effet style relaxant qui tout d'un coup disparaît. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a ça, hein, au point de vue évolutionniste, c'est intéressant. Hein, probablement que lors de la grossesse, s'il y a une grossesse, il y a, hein, où le climat progestéronique va se poursuivre, hein, puisque la progestérone va accompagner la grossesse, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu quand même à un climat de sérénité, de préparation à l'événement. Voilà, c'était juste pour illustrer sur un point de peut-être un peu de détail, hein, mais qui peut-être peut avoir des échos un petit peu chez vous, un des effets de ces hormones sexuelles. Alors la testostérone aussi, c'est un sujet intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites avec la testostérone, on pourra y revenir. Hein. Alors c'est un autre registre, hein, mais sur les effets de ces hormones qui sont qualifiées d'hormones sexuelles parce qu'elles sont sécrétées par les organes sexuels, hein, de façon très différente chez l'homme et chez la femme, sur des choses qui sont de l'ordre de comportement, cognition, façon de sentir les choses, etc.
Merci. Donc juste aussi par rapport à ton intervention, c'est vrai que moi je suis tout à fait d'accord dans le fait de dire qu'il y a de l'inné. Moi je suis aussi d'une certaine manière essentialiste parce que je pense qu'il y a vraiment une essence féminine, une essence masculine. Mais par contre, c'est pas si indiscutable que ça, la séparation quand même homme-femme, parce que même les chromosomes XY ne produisent pas tous, en tout cas pour les hommes ne produisent pas tous le gène SRY. Donc ça veut dire qu'on a des garçons à la naissance qui ont ce chromosome mais qui n'ont pas ce gène. Donc est-ce que ce sont des garçons à part entière? Est-ce que ce sont... Voilà, c'est ça que... Dans cette idée de binarisation aussi qui est un petit peu parfois un peu intéressante à...
cascade, hein, parce que là j'ai raccourci un petit peu, hein, mais c'est évidemment que entre le gène et la production d'un garçon avec tous ses attributs, il y a toute une cascade d'événements, et à tous les étages on peut avoir des désordres. Hein. Un des syndromes les plus connus, c'est le syndrome de résistance à la testostérone, qui font que le garçon produit la testostérone, mais il n'y a pas de récepteur. Donc il ne peut pas se différencier, hein. Ça fait des garçons qui effectivement ne développent pas les caractères sexuels secondaires, qui n'ont pas de puberté, la pilosité, etc., etc., qui n'apparaissent pas parce qu'ils n'ont pas les récepteurs à la testostérone.
Alors pour en rajouter encore un élément, vous m'entendez ? Un autre élément, parce que là on part, on est dans des considérations génétiques, l'expressivité du chromosome au gène à l'expressivité. Il y a dans le champ de la génétique, c'était le grand espoir des généticiens au début du XXIe siècle, là, c'est en cartographiant tout en temps relativement limité, avec les chaînes d'ADN, on a pensé qu'on allait pouvoir détecter beaucoup de choses, les prouver, les analyser. Mais ce qui est apparu, c'est une science, entre guillemets, oui, une nouvelle approche de la génétique qui s'appelle l'épigénétique, et qui fait apparaître que finalement la cartographie, le déterminisme cartographique des chaînes et des codages, eh ben, les généticiens étaient surpris de voir, et c'est une voie de recherche intéressante, qu'en retour, il semblait qu'énormément de facteurs pouvaient en retour modifier ce qui était d'ordre génétique, qui nous avait été enseigné comme, voilà, bah, par exemple, pour les chromosomes, bon, XY, c'est un homme, XY, c'est une femme, donc en criminaux, parce que bon, il se trouve que c'est un champ qui fait partie de mes activités, le chromosome du crime, quel était le Y supplémentaire, le XYY. Après, la sexualité, le profil personnel des gens qui ont Y de plus, on a cherché dans tous les domaines, les XYY ou d'autres anomalies génétiques n'ont pas donné directement, plus il y a d'Y, plus on a une polarité masculine ou plus on est assassin. Les échecs d'époque, c'est qu'on n'avait que du découpage de chromosomes. Mais maintenant, dans ma spécialité, j'ai travaillé avec les généticiens là-dessus, enfin travailler, écouter ce qu'ils disaient plus exactement. Et le retour sur la génétique de l'acquis dans l'éducatif et dans plein d'autres facteurs, qu'ils soient toxiques, environnementaux, devient extrêmement intéressant. C'est-à-dire que des chaînes qui étaient... On a ça en regard, la petite chaîne hélicoïdale, on a tel gène, l'expressivité des gènes. On savait déjà que tout ne s'exprimait pas, qu'il fallait effectivement, entre le chromosome et l'expressivité, alors ça, ce sont des notions peut-être un peu plus complexes d'apparence génotypique, phénotypique. Le sexe, par exemple, finalement, le sexe masculin, c'est la verge, les testicules. Le sexe féminin, c'est le vagin, les ovaires. L'utérus appartient à qui ? Et c'est un élément important dans la féminité. Bon, après, on a le sexe génétique, on a les hormones, mais en sachant qu'il y a des hormones masculines chez la femme, des hormones féminines chez l'homme. Mais cette question du retour sur la génétique, effectivement, questionne beaucoup, parce qu'on voit que même des chaînes peuvent être modifiées, et c'est probant maintenant, puisqu'il y a la capacité d'observer directement, par des facteurs extérieurs.
Moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur la testostérone. On a parlé de l'œstrogène. Oui. Alors, il y a pour répondre aussi à la question d'André, il y a eu une expérience il y a quelques années menée par une féministe. Alors, avant Béatrice Preciado, qui s'appelle Noah Vincent, c'est une américaine. Donc, elle va jusqu'au bout, elle aussi. Donc, elle s'est dit, je vais vivre dans la peau d'un homme en prenant des hormones masculines. Elle était partie, pareil, comme Béatrice Preciado, pour 40 jours, 3 semaines, je ne sais plus, 40 jours. Elle part pour 40 jours. Elle a arrêté l'expérience au bout de 2 semaines. Et voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit deux choses. Elle a dit, au bout de 20 jours, je ne pensais plus qu'à une chose, le sexe. Deux, j'ai aussi arrêté parce que j'ai mesuré à quel point c'était violent et dur d'être un homme et je ne m'attendais pas à cela. Et donc, elle a raconté son expérience comme ça et elle s'est dit, je ne mesurais pas effectivement à quel point c'est dur d'être un homme. Donc, voilà, peut-être...
Je pense que c'est un raccourci parce qu'elle ne mesurait pas à quel point il était difficile pour elle d'être exposée à la testostérone. C'est-à-dire que ce n'est pas être un homme. Et peut-être que je peux juste... à Grenoble, il y a un de nos collègues qui est Laurent Beg qui a fait une expérience très intéressante récemment publiée, puis il y a eu un relais médiatique, donc on peut revenir un peu dessus, à propos de la testostérone. Donc la testostérone, c'est assez facile de la doser dans la salive. Hein, donc on va prendre un petit prélèvement d'échantillons salivaires et on peut doser la testostérone. Et les données varient assez de façon assez importante d'un sujet masculin à un autre. Et donc ils ont regardé un critère très simple qui est Posez la question au sujet masculin qui participe à l'expérience. Est-ce que vous mangez très épicé? Donc, ils remplissent un questionnaire et on va mesurer comme ça quel est leur goût pour les aliments épicés. Et puis ensuite, on leur donne un plat et on leur donne un choix d'assaisonnement avec des choses qui sont peu épicées, très épicées, extrêmement épicées. Et on regarde à la fin quelles sont leurs consommations. Et il y avait une corrélation assez étroite entre le taux de testostérone et le degré d'attrait pour la nourriture très épicée. Alors, ensuite, la corrélation n'est pas cause. Hein. Ce n'est pas certain que c'est parce qu'on a une testostérone élevée qu'on va aller vers des choses très épicées. Hein. Mais en tout cas, cette association peut se faire soulever quelques discussions. Par exemple, si effectivement la testostérone participe un petit peu à un niveau, disons, d'affirmation de soi, de virilité, ben moi, voilà, ça ne me fait pas peur de manger des trucs très, très épicés. J'aime ça, ça fait partie de moi. Voilà, donc on peut vraiment aller un petit peu dans cette logique-là, qui est aussi une logique où la partie discours intervient beaucoup. Hein, c'est-à-dire que le discours qu'on tient sur soi. Hein, si je suis comme ça, c'est que j'aime ça. Hein, c'est pas forcément, tout est loin d'être biologique, bien sûr. Hein, mais c'est intéressant de voir ces corrélations entre des choses qui sont très, très biologiques et des choses qui sont de l'ordre de vraiment de... Enfin, manger épicé, quoi de plus culturel presque. Hein.
Donc j'aime beaucoup les épices, enfin, juste pour... Simplement pour préciser, effectivement, dans le milieu du bodybuilding, où justement l'injection d'hormones exogènes est quand même, peut-être pas monnaie courante, mais quand même assez fréquente, on va dire, et on voit les effets physiologiques sur les deux sexes, où c'est vrai que pour les femmes, vous allez avoir plutôt un rétrécissement de la glande mammaire et l'apparition d'une pilosité, selon les dosages, et c'est un peu l'inverse souvent chez les hommes, c'est-à-dire que oui, effectivement, au départ, il y a une augmentation de la libido, mais ce qu'eux nous disent à un moment donné, c'est qu'il y a une espèce de saturation, puis un déclin qui s'effectue, parce que c'est l'inverse qui prend le relais, en fait, vu qu'il n'y a plus de production. L'injection de testostérone exogène se substitue à la production endogène. Donc, du coup, il y a des effets de dévirilisation, entre guillemets, avec, beaucoup me disaient, voilà, rétrécissement des testicules, stérilité, etc. Désolé d'avoir cassé l'ambiance.
Monsieur.
Très intéressant. Alors, en fait, quand je suis venu ici, je pensais qu'on allait parler de... à savoir si le sexe avait un cerveau. En fait, je m'aperçois qu'on dérive un peu et je me demande si c'est le sexe qui a un cerveau et non pas le cerveau qui aurait un sexe. Alors, en fait, la question qui est derrière cette petite boutade ou ce lapsus, finalement, c'est de vous demander de regarder dans l'histoire de l'humanité qu'est-ce qui a fait, quels sont les mécanismes qui ont fait qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si le cerveau a un sexe.
Ça, c'est une question pour un philosophe. Hein.
T'as 4 heures. Il marche plus le micro.
Le micro ne marche plus.
Il y a une réponse très sérieuse, mais très simple à résumer. Ça, c'est une question d'homme, par exemple. Voilà. Que j'ai trouvé dans un ouvrage d'un psychosociologue qui s'appelle Baumeister. Il explique, voilà, par exemple, le fait de donner naissance, c'est vraiment un truc très féminin. Hein. Bon, il n'y a que les femmes qui donnent naissance. Et il dit qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, la baisse de la mortalité infantile a commencé à partir du moment où les hommes ont eu le droit de s'en mêler. Alors, il explique ça, c'est assez détaillé. Il explique qu'à partir du moment où les traditions les plus anciennes excluent très, très clairement l'homme du lieu où les femmes vont accoucher, voilà, l'homme n'a pas le droit de rentrer. Et puis, dans les sociétés où petit à petit, l'homme va pouvoir s'approcher du bébé, va pouvoir être là, et ainsi de suite, peu à peu, ils vont aussi imaginer tout de suite, donc plutôt le côté homme, ils vont commencer à se poser des questions, mais pourquoi les enfants meurent, comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils ne meurent pas, et c'est de ce moment-là, donc d'après lui, que les progrès de la médecine ont fait des avancées significatives à partir du moment où les hommes ont été acceptés près des femmes qui donnaient naissance. Donc voilà, c'est une question de questionnement, c'est un truc d'homme peut-être, je ne sais pas.
Quand même, introduire aussi autre chose à votre question. Il est assez récent quand même dans l'histoire de l'humanité qu'on ait une connaissance anatomique du cerveau, même si dans l'après-coup, quand on retrouve les momies fossilisées, on cherche. Il faut savoir que c'est à peu près, enfin, c'est fin du 19e siècle que les travaux ont vraiment commencé sur les localisations cérébrales. Broca, notamment, dans les années, enfin, je sais pas, 1880, lui, il avait fait un traité sur les cerveaux, l'anatomie des cerveaux. Il y avait, en fonction des races, des sexes, de plein de critères. Alors, quant à pourquoi on se pose maintenant la question du cerveau a-t-il un sexe, c'est déjà relativement récent, finalement, aussi, qu'on considère que les femmes ont un cerveau qui sert à quelque chose, puisque pendant très longtemps, le cerveau, c'était le cerveau de l'homme. C'était plus lourd parce que les femmes, les animaux, les races inférieures, finalement, bon, elles avaient certainement un cerveau, mais c'était, on ne se questionnait pas tellement sur leur statut. Bon, je pense que l'évolution, elle est à la fois dans la capacité de faire des comparaisons, aussi qu'avant, il faut le dire, si vous avez eu la chance de voir le cerveau de Mozart enfant, que pour voir des cerveaux, il fallait les découper après la mort, ça c'était la boutade. Mais maintenant qu'on observe en direct, on observe aussi des modifications, c'est ce que disait Laurent, par rapport aux images dynamiques, et on voit effectivement, mais on s'y intéresse relativement récemment aussi, parce que pendant longtemps, le cerveau de la femme, ça n'avait strictement aucun intérêt. Puis après, il y a eu aussi, bien sûr, les déterminismes liés à la représentation des hiérarchies. Mais en fait, bon, ce que dit Laurent, c'est l'introduction de l'homme dans Messin, on a chacun nos points de vue. Moi, je suis un macho féministe, tout le monde le sait. La polarité féminine et puis la représentation. Mais c'est vrai qu'on parle là du cerveau, et oui, mais enfin, pendant longtemps, la question, elle était tranchée. C'est que l'intelligence, la femme n'avait pas grand-chose, sinon l'utérus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on parle d'hommes et de femmes, on parle d'organes génitaux externes, d'hormones, mais il y a aussi les fonctions.
Mais si je peux prolonger un petit peu votre interrogation, la différenciation des sexes, elle n'a qu'un but, et depuis le début, c'est la reproduction. Et la reproduction, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Pourquoi c'est le modèle qui a été choisi au point de vue évolutif? C'est parce que c'est celle qui va permettre le meilleur brassage génétique. C'est-à-dire que la reproduction, ça vise à perpétuer l'espèce, avec un but qui est essentiel, qui est d'assurer le maximum de différenciation génétique, hein, de brassage génétique. Et ça, nécessairement, ça demande que les deux pôles, dont parlait Philippe, soient très différenciés. C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent être différents. C'est utile à la reproduction. C'est-à-dire que si on était trop similaires, il n'y aurait pas d'attractivité, on ne serait pas attiré par l'autre. Donc c'est quand même la différence qui attire. Donc il fallait cette différenciation sexuelle très nette. Et je pense que c'est Platon ou c'est Aristote, l'être initial à quatre...
Les hermaphrodites, oui.
Hermaphrodite qui se sépare, entre deux.
Les escargots se débrouillent. L'escargot se débrouille très bien.
Voilà, donc la séparation, c'est quelque chose qui permet de réunir les. Mais il faut que cette séparation soit nette, soit tranchée. Et c'est pour ça que la question, donc, le cerveau a-t-il un sexe, en fait, elle, pour moi, la réponse, elle est évidemment oui. Parce que le cerveau n'est pas différent du reste. C'est-à-dire que le cerveau, c'est une partie du corps. Nos corps sont différents. Il n'y a pas de raison que le cerveau ne soit pas différent. Il n'y a pas de raison. Le cerveau n'a pas un statut d'organe à part qui ferait qu'on aurait le même cerveau et tout le reste serait différent. Donc l'homme et la femme sont différents. Heureusement, heureusement. Ça n'empêche que politiquement, culturellement, il faut se battre pour qu'il y ait une identité de droit, hein, une égalité, bien sûr, hein, on est convaincu d'être un féministe ardent. La différence ne veut pas dire inégalité. Hein, on peut ne pas être identique et être quand même égaux en droit, en accès, en salaire, etc. etc., etc. Mais cette différence, elle est naturelle.
Il y a juste une question, parce que ce n'était pas qu'une boutade, les escargots. C'était pourquoi est-ce qu'il faudrait une différenciation nette entre les sexes? Pourquoi est-ce que ce serait quelque chose de bénéfique du point de vue de l'évolution? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement des êtres bisexuels à l'origine et ça, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas bien?
Si on était bisexuel, on n'aurait pas de brassage génétique. C'est ce que je disais sur le fait que...
Pourquoi?
Parce qu'on reproduirait notre propre patrimoine. En fait, il faut savoir que notre patrimoine génétique, il est soumis à des mutations permanentes. Hein, c'est-à-dire qu'au cours de la vie même, hein, notre patrimoine mute. Et c'est aussi probablement une des raisons de l'émergence avec le temps, avec l'âge, de cancer, de pathologie génétique.
Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de brassage?
On a besoin, en se reproduisant, de partager une partie de son patrimoine avec quelqu'un de très différent de nous, de manière à potentialiser la présence d'une mixité génétique, disons, d'un brassage plus complet. Plus on est endogame, plus on va vers quelqu'un qui est proche de soi génétiquement, plus on a des risques. Mais
Avoir plus de proximité entre deux gens de sexe différents qu'entre deux gens de même sexe, au point de vue génétique. Par exemple, un frère et une sœur sont plus proches génétiquement que cette sœur d'une femme qui n'a rien à voir avec sa famille.
Deux personnes de même sexe. Alors, potentiellement, j'imagine que ça pourrait être concevable qu'il y ait un brassage génétique de même sexe. Il y aurait une exclusion définitive à un moment donné de l'Y, par exemple, hein, puisque c'est plus simple de faire une population d'X, X, 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 et tout le monde est X, que de garder ce pauvre Y, là, dont on se demande bien ce qu'il fait, et pourquoi est-ce qu'il a pris le pouvoir.
Madame, allez-y.
Je voulais rebondir tout à l'heure sur l'histoire de l'homme qui, en rentrant dans la maternité, a fait diminuer la mortalité des enfants. Typiquement, là, on est dans un cas où le fait que le cerveau, parce que vous aviez dit, monsieur le neurologue, que le cerveau était un organe comme un autre, en réalité, il est extrêmement plastique. Et donc, à cette époque-là, les femmes n'allant pas à l'école, du coup, n'étaient pas éduquées. Et du coup, quand elles accouchaient, elles n'avaient aucune connaissance d'hygiène, d'asepsie, de choses comme ça. Et donc, à quel moment, du coup, la société va, du coup, transformer le cerveau? C'est-à-dire que, certes, il y a les hormones, mais le cerveau plastique va évoluer en fonction de la société. Et du coup, quel est le poids de cette société, justement, sur le développement d'un cerveau féminin ou masculin par rapport aux codes qu'on impose?
C'est certain que voilà, quand les filles étaient exclues de l'école, il y avait beaucoup moins, comme vous le dites, de stimulation cérébrale et c'est quelque chose qui les pénalisait. Mais on revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir d'une différence qui effectivement peut être mise en évidence, c'est l'utilisation aussi de cette différence qui peut poser des problèmes parce qu'elle peut justifier la mise à l'écart de certaines populations, au contraire la valorisation de d'autres dans un système qui était plutôt effectivement masculin, où on voit, pour le reprendre de le cas de l'école, il y a eu... le fait d'autoriser par exemple les filles à aller à l'école, mais sans qu'elles aient l'autorisation de passer le bac pendant longtemps, par exemple. Ce genre d'exemple-là. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question aussi? Parce que du coup, je...
En fait, en résumé, ce que je disais, c'est que le cerveau, la différence qu'il pouvait y avoir entre le cerveau des filles et des hommes, est-ce qu'elle n'était pas uniquement liée au côté plastique, c'est-à-dire au côté de l'environnement qui allait modifier le cerveau? Donc, en fait, c'est un mélange pour le sociologue et le neurologue. Qu'est-ce qui va intervenir le plus, finalement, sur la sexuation du cerveau?
Alors ça, niveau stimulation et puis réaction du cerveau, ça, je ne sais pas. C'est sûr que selon certaines activités, on va attendre beaucoup plus peut-être d'un sexe que par rapport à l'autre. En tout cas, dans les études en sociologie qui ont été réalisées à l'école, on voit que les filles réussissent mieux globalement que les garçons, mais n'arrivent pas forcément à aller dans les meilleures filières pour valoriser justement ce qu'elles ont acquis au sein du système scolaire. Et que quand on fait des observations dans les classes, en particulier dans les sciences dites dures, on va avoir beaucoup plus d'attentes pour les garçons. Les professeurs ont plutôt tendance à stimuler davantage les garçons plutôt que les filles. Et donc, à attendre peut-être davantage de ce point de vue-là. Et ça participe à l'état d'esprit d'une compétition, en tout cas d'une mise en œuvre de confiance en soi aussi, quelque part, qui fait que pour certains, ça va paraître naturel d'aller plus loin, enfin naturel, normal, au sens de normal d'aller plus loin, alors que pour d'autres, c'est-à-dire les filles, il faudra faire un travail sur ça, il faudra essayer de trouver d'autres types de motivation, être accompagné pour aller plus loin par rapport à ça. Après, en termes de stimulation, de réaction à la stimulation, là, je ne sais pas, par contre.
Tiens, avant de te passer la parole, je vais juste compléter à propos de ces représentations sociales à votre question. À propos des expérimentations qui ont été faites, il y en a une qui m'a paru en tout cas assez intéressante. Dans un test, grosse cohorte, filles, garçons, avec des épreuves qui rejoignaient ce que l'on disait au début dans la représentation 3D, dans une salle avec, il y avait 50% de garçons, 50% de filles, des étudiants, hein, donc mettons plus de 18 ans, la même épreuve, et dans une autre salle aussi 50-50. Dans une salle, on a dit que l'épreuve était une épreuve de dessin. Dans l'autre, on a dit que c'était une épreuve de mathématiques avec des reproductions de figures. Mais il s'est avéré au dépouillement que dans l'épreuve, on avait dit que c'était une épreuve de dessin, étant donné que les filles étaient plus supposées douées dans cette partie que dans les mathématiques directes. Elles ont eu de meilleurs résultats et inversement dans l'autre salle. Donc les représentations que le sujet se fait de ses aptitudes et des, les déterminants liés au sexe, les filles c'est bon ça, les garçons c'est bon autre chose, interviennent aussi sur les performances. Donc pas sur le cerveau, parce qu'on peut supposer que le cerveau dans une salle A ou dans une salle B reste le même. Il ne peut pas être modifié tout de suite en changeant de salle. Enfin, moi, je pense, je ne sais pas, je ne suis que psychiatre, je n'ai pas fait beaucoup d'expérience là-dessus.
Alors, mon sentiment, vous avez demandé quel est le poids de la société. Mon sentiment, c'est que ce poids est immense. Immense. Et la deuxième idée à laquelle je pense en entendant votre question, c'est que... Dans mon vécu personnel, après je ne peux pas généraliser, mais dans mon vécu personnel, je n'ai pas le sentiment de m'être construit dans ma personnalité, dans mon caractère, en me référant à la catégorie homme ou garçon. Et j'ai le sentiment, plutôt au contraire, que ça ne servait pas à grand-chose de savoir si on était un garçon ou une fille. Et donc moi je pose la question, est-ce qu'on a besoin pour éduquer un enfant de lui rappeler ou de lui demander de coller à cette étiquette fille, garçon. Est-ce que cette distinction homme, femme ou fille, garçon est essentielle à la constitution de notre personnalité ? Parce qu'on vit une époque où on nous renvoie beaucoup à ça. Et une fois de plus, moi, j'étais petit dans les années 70 et j'ai pas trop senti ça. Mais après, vous allez me dire, c'est peut-être un point de vue d'homme. Peut-être que les filles dans les années 70 étaient plus souvent renvoyées au fait que, bah oui, tu es une fille, et ainsi de suite. Moi, j'aurais envie de croire qu'on peut se construire sans forcément s'identifier à un genre ou à un sexe. Voilà.
Juste pour rebondir aussi, moi c'est un peu l'inverse. Dans les années 80-90, moi j'ai plutôt eu l'impression d'avoir ces plusieurs modèles, on va dire, de référence. Et je le voyais aussi dans les interviews que j'ai pu faire pour mon étude, où il y avait ce besoin de... Pas pour tous, parce que je pense qu'il y a aussi des féminités, des masculinités. Dans la réalité, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'un sexe, qu'est-ce qu'être un homme ou qu'est-ce qu'être une femme. Il y a des caractéristiques biologiques qu'on peut parfois discuter, même s'il y a quand même une tendance. Mais il y a aussi beaucoup de références, de normes, de valeurs auxquelles on pourrait se référer pour dire, voilà, dans une société notamment qui donne plus d'importance au capital culturel, au capital cognitif, justement, être un homme aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'être un homme il y a un siècle, par exemple, quand on était dans un monde plutôt industriel avec des ouvriers, bon, en plus grande quantité. Et on voit quand même cette tendance forte, en tout cas, moi, pour ceux que j'ai interrogés, et je pense que je les rejoins, on a quand même été bercés, en tout cas de notre génération, enfin ma génération, par des dessins animés en permanence où il y avait des corps hyper musclés, des individus qui paraissaient être les dominants, les sauveurs, puis il y a le phénomène aussi Stallone, Schwarzenegger. Enfin, ça marque vraiment, en tout cas pour moi, ça a vraiment marqué toute une génération. Et dans mes interviewés, quand je leur demandais mais quel est ton modèle toi en bodybuilding, c'est toujours Schwarzenegger, quoi. Parce qu'il incarne l'individu qui s'est construit par lui-même, l'individu qui est arrivé aux États-Unis sans rien, qui a réussi, et économiquement parlant, Schwarzenegger a été utilisé par l'industrie du bodybuilding pour incarner, voilà, ce qu'on appelle en sociologie de la masculinité hégémonique, pour donner l'idée que c'est celui qui domine, c'est celui qui s'impose et celui qui est admiré par toutes les femmes. Donc nous, c'était plutôt l'idée qu'il fallait trouver des repères, en gros, dans un monde qui était peut-être plus flou, dans lequel s'accrocher, et ces modèles-là, qui paraissaient simples, qui paraissaient donner des résultats, quelque part, étaient vraiment valorisés. Non, mais par contre, je dis bien, moi aussi, pour ne pas généraliser, c'est pour moi vraiment l'idée qu'il y a des masculinités, en ce qui me concerne, puisque tout le monde, effectivement, ne va pas réagir dans cette configuration-là, mais il y a comme eu cette force, cette pesanteur, cette espèce d'aimant qui nous attirait, quoi, si je me rappelle bien de tout ça.
Je suis assez d'accord avec toi. La société est quand même très, très structurée avec ses identités de genre. Et la preuve, c'est la soirée de ce soir. Hein, déjà, le fait qu'on arrive à discuter de ça, c'est que quand même, ça reste un référent assez important pour nous. Et puis alors, juste pour la partie cérébrale de ce que vous dites, alors je suis tout à fait d'accord avec ce poids très important de la société, des représentations culturelles sur le cerveau en tant qu'organe se développant et sans s'arrêt du fait de la plasticité, se modifiant avec les apprentissages, l'acquisition de nouvelles compétences, etc. Donc c'est un organe éminemment dynamique. Et ce que disait Philippe est tout à fait juste. La partie génétique, on sait qu'elle est extrêmement réduite finalement dans le poids qu'elle a, notamment parce qu'il y a tous ces phénomènes épigénétiques qui expliquent aussi pourquoi est-ce que nous qui avons finalement 10 à 20 000 gènes, bon, pas grand-chose, des gènes qui sont extrêmement partagés avec le monde animal, y compris lointain, on a un partage de gènes considérable avec la drosophile. Et donc, tout ce qui se passe en fait derrière, c'est la modulation de l'expression des gènes, c'est-à-dire que les gènes vont exprimer les protéines, etc., de manière très très organique, très concertée et très sensible à l'environnement, évidemment. Donc le poids de la société, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, je ne vais pas m'opposer à ça, il est très important.
Oui. Dans la continuité en fait, de vos interventions, donc, on le ressent tous, il y a un poids immense de la société dans la sexuation. Si on s'intéresse précisément au phénomène de la parade amoureuse chez les animaux, c'est quoi ? C'est le poids de la société chez le paon qui fait que le paon fait la roue ? Ou c'est quand même qu'il y a bien quelque chose qui est codé génétiquement ? Et puis, vous parliez de la masculinisation hégémonique. Je crois que c'est un petit peu la transposition de la parade amoureuse, en fait, dans la société humaine. Donc, est-ce que, enfin ou pas, hein, vous pouvez me dire, mais enfin voilà, est-ce que quand même dans les phénomènes de séduction, de rapport homme-femme, voire homosexuel, mais tout ce qui touche en fait à ce qui va se passer avant la reproduction sexuée, on retrouve quand même quelque chose qui semble être codé au fond de nous en fait.
Moi, je suis moins spécialiste de ça, mais moi, j'associerais pas aussi facilement quand même les animaux aux humains, parce que c'est vrai qu'il y a quand même d'autres types de comportements justement qui vont jouer dans la masculinité hégémonique, même s'il y a des parallèles. La sexualité en fait partie de cette masculinité hégémonique, dans le sens où l'appropriation du sexe opposé est valorisée dans toutes ces représentations sociales. Et c'est pour ça que dans le cadre de la masculinité, enfin, être un homme tel que c'est valorisé dans la société, c'est apprendre à l'être doublement, c'est-à-dire apprendre à être un homme tel qu'on l'attend et apprendre à ne pas être une femme, parce que la femme est renvoyée au féminin et est renvoyée à la dévalorisation. C'est pour ça que, en particulier dans le milieu du sport dans lequel j'ai investigué les choses, le personnage homosexuel est systématiquement dévalorisé, systématiquement associé à la faiblesse au féminin. Après, moi, je vous répète, je suis moins spécialiste, mais les animaux aussi ont un comportement, j'allais dire, beaucoup plus, enfin, qui me semble beaucoup plus ritualisé, où la parade, ils la font à des périodes de la reproduction spécifique, alors que la masculinité, elle peut être en jeu à n'importe quel moment, elle est quotidienne quelque part dans les interactions, dans la façon de se positionner. Donc je pense qu'il y a des liens effectivement, forcément, puisqu'on est aussi une espèce quelque part qui a aussi des besoins de reproduction et de la nécessité de reproduction, mais après il y a d'autres facteurs qui font que ça me paraît beaucoup plus évolué, beaucoup plus complexe dans la dimension relationnelle à l'autre sexe. Voilà,
je peux dire ça. On a plein de parades différentes, il n'y a pas que Schwarzenegger.
Alors moi, je serais plutôt du côté un peu de la continuité avec le monde animal, quand même. Je pense qu'effectivement, on a un enrobage de ce qu'on fait par le discours, c'est-à-dire qu'on baigne dans le langage, donc on a besoin de nous raconter des histoires, on a besoin de se raconter, je fais ça parce que machin, je suis comme ça, il m'est arrivé ça, donc je fais ça. On baigne là-dedans, donc on ne peut pas ne pas créer tout ce roman de notre vie, de notre histoire, et de pourquoi je suis tombé amoureux d'un tel, etc. Mais derrière, on a quand même des mécanismes qui sont quand même biologiques. Pour prendre juste une illustration et revenir un petit peu au domaine des hormones, il y a le cas de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qu'on partage, mais vraiment très largement, avec le monde animal. Et c'est une hormone qui, chez les animaux, a été très étudiée comme étant vraiment une hormone liée au comportement d'attachement. Donc c'est l'hormone qui permet à la femelle pigeon d'élever sa couvade, etc., etc. Chez l'homme, l'ocytocine, elle est produite. Et chez la femme notamment, elle est produite après l'orgasme, au moment de l'orgasme. Il y a une grande production d'ocytocine qui va probablement concourir à l'attachement. Et cette ocytocine, elle a été étudiée aussi dans des expériences, notamment de psychologie sociale, où on vaporisait de l'ocytocine dans des réunions. On regarde un petit peu comment les gens... Donc on réunit des gens et on regarde un petit peu comment est-ce qu'ils vont évoluer dans leur comportement en fonction de la vaporisation ou pas de l'ocytocine. Alors, on leur demande rien de malhonnête, enfin rien de spécial. On leur demande juste d'essayer de négocier des choses, établir des contrats. Et en fait, on se rend compte qu'ils arrivent beaucoup plus à avoir des résultats d'entente, de s'entendre sur un point, s'il y a cette atmosphère vaporisée d'ocytocine.
Mais c'est vrai que... Tu connais aussi bien que moi, mais quand on regarde les travaux quand même aussi de Norbert Elias, on voit quand même qu'on a de plus en plus aussi, notre auto-contrainte, historiquement, c'est quand même largement renforcée et fait qu'on peut vivre les uns à côté des autres sans justement se sauter dessus, entre guillemets, même s'il y a des hormones ou des phéromones. C'est-à-dire qu'on prend, on met deux pans dans une pièce, c'est le carnage, quoi. On met un homme et une femme dans une pièce, même avec des phéromones, on arrive normalement à se contrôler. Bon, sauf, comme je disais, en économie, nous, on a Dominique Strauss-Kahn, mais c'est vrai que on a quand même, je pense, quand même, bien sûr, moi je suis 100% d'accord avec toi, il y a forcément une attirance et des phénomènes génétiques qui vont jouer biologiques, qui vont attirer, qui vont déterminer une façon de se comporter. Mais on a quand même aussi tout ce poids, et qui peut être parfois d'ailleurs problématique pour d'autres raisons, mais tout ce contrôle social, moi je suis plutôt dans le sens de dire qu'il a largement évolué et qui fait qu'aujourd'hui, bah, on peut aussi par exemple aller s'installer à côté d'une femme qui est seins nus sur une plage, on peut se mettre dans, développer des choses naturistes, etc., sans qu'il y ait eu non plus un comportement, j'allais dire, entre guillemets pour moi, mécanique, d'hyper-réactivité pour dire, voilà, je ressens un effet de testostérone, je fonce sur mon partenaire, puis c'est réglé, etc. Enfin, voilà, c'est surtout ça, moi, que je veux dire. Je pense aussi qu'il y a ces phénomènes, forcément, qui sont présents, mais qui sont neutralisés, et c'est le poids de... Enfin, c'est tout le rôle aussi, justement, de la socialisation humaine, entre guillemets, de le faire, et qui a largement évolué là-dessus.
Mais ça veut dire qu'on est en train de revenir à une différence homme-femme. Et si on reste sur la ligne animal-homme, moi, je pose une question. Ok, c'est le mâle qui fait la roue. Pourquoi c'est toujours le mâle qui doit faire la roue, hein? Et là, on a mené une expérience très simple sur des êtres humains. On verra. On a demandé à des étudiants, à une étudiante sur un campus, une étudiante qui n'était pas très 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 belle, mais qui n'était pas moche non plus, d'aller vers des hommes. Bon, non, oui, c'est important pour l'expérience. Elle va vers des étudiants plus attractifs qu'elle et elle leur propose, donc des gens qui ont des garçons plus attractifs qu'elle, et elle leur propose de faire l'amour ce soir avec elle. Mais poliment. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous accepteriez de faire l'amour avec moi ce soir? Résultat du test, 75% des hommes disent oui et parmi les 25% qui disent non, il y en a une grande partie qui disent non, ce soir je peux pas. Mais demain, je peux peut-être me libérer. Bon. Et puis, évidemment, les psychologues sociaux ont inversé. Ils ont demandé cette fois à un garçon, qui n'était pas très 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 beau, mais pas non plus le laid, d'aller vers des filles plus attractives que lui et de demander gentiment « Bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous voulez faire l'amour avec moi ce soir ?» Et là, c'est zéro femme ont accepté. Et là, on se dit, on a utilisé cette expérience pour dire, bah voilà, il y a une différence peut-être innée. Voilà, c'est, alors, je ne sais pas si c'est les hormones, je ne sais pas si c'est le cerveau. C'est...
Alors, Laurent, mais là, il y a de l'inné. Il y a une cause animale qui est bien connue, hein, c'est que, effectivement, c'est le mâle qui fait la roue, hein, on peut étendre les choses, mais c'est la femelle qui fait le choix.
Attends, je voudrais dire quand même que, m'intéressant beaucoup aux animaux, si vous avez regardé le mâle et la femelle chez les pans, et ben, que la femelle fasse la roue, la pas les plumes qu'il faut pour aussi. Il y a certainement une raison.
Voilà, c'est la parole aux femmes, là. Il faut vous défendre. Ne laissez pas dire ça.
Une deuxième et dernière remarque. Oui. Le sujet étant toujours, je le suppose, de savoir si le sexe, si le cerveau, pardon, a un sexe. Ben la réponse est non. La réponse est non, puisque il n'y a que des messieurs pour nous en parler, pas de femmes. Donc le comité d'organisation aurait pu quand même. Et donc, sans être un ardent défenseur du mouvement féministe, moi je reste quand même un peu en attente toujours de la réponse. Puisque sociétal, puisque j'admets volontiers, je suis assez séduit par votre démonstration en disant que le besoin de séduire, le besoin de séduction crée cette différence et que c'est cette différence qui fait sans doute la richesse de l'humanité, ça je pense que c'est vrai. Alors finalement, qu'est-ce qui fait que la société a été amenée à créer cette différence pour qu'on en parle ce soir? Et dans tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, on a parlé de la société, on a tourné autour de l'acquis. Et on n'a pas encore parlé de religion, me semble-t-il. Et pourtant, dans les quelques religions qu'on peut étudier, il y en a une qui est quand même assez symptomatique. Il y a une femme qui s'appelle la Vierge Marie, ce n'est pas un nom tout à fait innocent. Moi, je me suis aperçu, quand j'ai eu des enfants, que ma femme était plus vierge. Vous voyez, parce qu'une femme qui fait un enfant, elle est plus vierge de fait. Mais il y a quand même dans la religion un truc qui nous a enseigné. J'ai été élevé dans une religion assez profonde, dans lequel... Une femme a réussi à mettre au monde le sauveur de l'humanité tout en restant vierge. Donc la question globale, à vous messieurs, du coup, c'est de savoir dans cette fabrication de la société qui amène aujourd'hui des mouvements féministes à défendre avec beaucoup d'ardeur et puis beaucoup de besoin le rôle de la femme dans la société. Ça s'est beaucoup réparé à l'hôpital de Grenoble où il y a quand même beaucoup de dames aujourd'hui au concours de l'internat, si on le regarde bien. Mais qu'est-ce qui fait que finalement on est arrivé là et est-ce que les religions n'ont pas une responsabilité là-dedans ? Voilà, merci.
En fait, sans trop rentrer dans les détails, il y a certaines études d'anthropologues, notamment celle de Françoise Héritier, qui part d'une hypothèse fondamentale qui est liée à une inégalité naturelle, pour le coup, c'est-à-dire que les femmes ont la possibilité de donner naissance que les hommes n'ont pas. Et pour, dans son interprétation, c'est que très tôt, comme elle l'appelle, ce pouvoir exorbitant a été compensé par les hommes pour se dire ce pouvoir-là doit être conservé. Donc il faut que j'ai la main mise dessus, les femmes seront plutôt liées à la sphère privée et les activités politiques publiques seront au contraire plutôt gérées par celles des hommes. Effectivement, dans les analyses les plus féministes, on retrouve cette organisation qui s'est fondée progressivement politiquement autour de cette séparation forte et les institutions politiques comme religieuses allaient légitimer dans ce sens-là puisqu'elles allaient renvoyer et insister sur l'idée d'une nature indépassable. Et forcément, quand les féministes vont dénoncer le patriarcat, les attaques à l'égard de la religion qui valorise et qui légitime ce patriarcat ont été assez fortes puisque c'était justement légitimer et naturaliser un système qui était voulu par une force surnaturelle quelque part qui nous guidait et qu'il fallait écouter sans poser d'interrogation. Donc voilà ce que je peux dire rapidement.
On va peut-être garder les questions pour après la pause, comme on est à peu près au milieu de l'émission. Donc on fait une petite pause de 10 minutes, une page de pub. Ouais. Et donc pendant la pause, on peut. Qu'est-ce que je fais ? Ah oui, on peut aller boire un coup si on veut.